Bonjour à tous et bienvenue dans ce pod culture. Je suis Hermione et aujourd'hui on va parler de science-fiction avec un invité que je me suis permis d'inviter qui s'appelle Rémi.
Bonjour Hermione, c'est moi Rémi. Bonjour à tous.
Et on va un petit peu discuter. Ça va faire un moment que j'ai pas fait de podcast, donc ça me fait plaisir de me retrouver avec quelqu'un avec qui j'apprécie discuter. Et en plus d'un sujet que j'apprécie beaucoup discuter aussi. Donc, alors moi personnellement, quand on parle de science-fiction, je pense direct à Star Wars, tu vois. Parce que la science-fiction, genre quand tu penses à la science-fiction, ça dépend, mais le plus souvent tu penses à ça, quoi.
Ouais, c'est vrai que Star Wars c'est le premier truc qui vient aux gens. Alors moi quand je parle science-fiction, moi je pense plus à des trucs français, du style. Je sais pas, Valérian Lorline, des trucs genre Universal War One.
C'est quoi?
Alors, Valérian Lorline, c'est. En fait, sans Valérian Lorline, t'as pas Star Wars. c'est un peu bête à dire, mais en gros, Valérian Lorline, c'est une très très vieille BD de SF française, franco-belge. Et en gros, bah, il y a énormément de choses qui ont inspiré la SF américaine, etc. Et notamment, bah, dans l'un des tout premiers films Star Wars, il y a un petit plan. Du Millennium Falcon qui vole comme ça un peu en distance, et en fait c'est une référence à un des panneaux de Valerian Lorline parce que George Lucas était à fond dedans.
D'accord.
Mais moi je pense aussi à des trucs genre La Cité des Enfants Perdus, un peu Le Cinquième Élément, même si beaucoup de gens le considèrent plus comme un blockbuster américain qu'un film de SF français, parce que moi en fait j'ai grandi en regardant des trucs de SF français, en lisant des trucs de SF français. Sillage par exemple, petite BD assez connue où en fait on suit les aventures d'une humaine au sein d'une société d'aliens. Le truc c'est que tous les aliens sont psychiques, donc on peut lire dans la pensée des gens, etc. Ils ont développé des technologies autour de ça et les humains ne le sont pas.
D'accord.
Et ils n'ont pas d'autres humains à part elle, donc du coup elle devient un peu importante, elle rejoint un peu une force militaire secrète, et c'est un peu à la Doctor Who, Planet of the Week, quoi. Telle issue, elle va être sur une planète comme si, une autre avec une planète qui fait écho à Terminator. Elle va être mêlée à des deals politiques et tout ça, c'est très intéressant. C'est aussi français dans les pires aspects, hein. C'est-à-dire que à tous les albums, elle se tape à Nouvelle Alien, quoi. C'est,
Oh merde!
Ouais, c'est vraiment. Moi j'ai grandi avec ça, quoi. Donc,
au bout d'un moment. Moi j'ai été très noyé sous la SF américaine, tu vois. Genre les Spielberg, les films de George Lucas, Lucasfilm. Je sais pas si on devrait considérer Indiana Jones comme une science-fiction, même s'il y a beaucoup d'aspects qui touchent à la science-fiction.
Ouais, bah c'est, en fait c'est dans le même écho, surtout que bon bah le quatrième film, je crois, il y a des aliens,
ouais.
Des questions un peu comme ça.
Il y a tout un spectre de science-fiction.
Ouais,
en fait.
Ouais, et puis moi aussi, hein, j'ai regardé E.T. quand j'étais petit.
Putain, j'ai jamais regardé E.T.
Voilà, tu vois quelque chose, hein, c'est grave. Hein. Gravissime. Regardez, E.T., l'un de mes premiers films de SF que j'ai vraiment, je suis tombé amoureux dessus, c'était genre Alien, tu vois. J'ai regardé les Star Wars aussi, évidemment, parce que bon, voilà. Mais moi, j'ai regardé quand, dans l'ordre que ma mère les a regardés. Elle m'a dit, tu vas les regarder quand moi je les ai regardés.
Du coup, c'est 4, 5, 6, 1, 2, 3.
Voilà, c'est ça. Moi, j'ai regardé comme ça, donc c'était assez particulier de commencer avec les vieux films et ensuite suivre les plus récents, quoi. Parce que moi, quand j'étais petit, bah, ils étaient en train de sortir, quoi. Moi je me souviens très bien de voir à la télévision Star Wars 3 est sorti, les gens font la queue, tout ça.
Mais en vrai ça doit être sympa, hein. Genre de regarder 4, 5, 6 puis de passer à 1, 2, 3.
Ouais, d'un côté en fait ça m'a pas tant choqué que ça. Et puis en plus vu que c'était un peu les vieilles collections, on a évité tous les problèmes de George Lucas qui change le 3 éléments à chaque fois. Non, c'était bien. Après je regardais énormément de séries SF aussi. Je regardais des trucs genre Stargate. Je regardais des trucs genre Doctor Who, en même temps je regardais des trucs un peu plus petits genre Le Caméléon. C'est la SF mais plus calme, en fait c'est un gars qui est capable de prendre n'importe quelle identité, n'importe quelle personnalité, et il a été fait dans un programme scientifique, des clones, enfin ouais, ça part en vrai comme évidemment, hein. Ouais, je regardais beaucoup de trucs comme ça. Donc, moi j'ai grandi avec la SF quasiment dans les mains. Moi je me souviens un des premiers bouquins qu'on m'a donné, c'est Le Petit Prince. Bon, c'est pas vraiment de la SF qu'on entend aujourd'hui, mais c'est un peu SF quand même.
Oui,
tu vois.
Alors, je dirais que c'est plutôt de la SF fantasy.
Ouais. Ça, mais tu vois, c'est ça qui m'a attiré dans la SF. Moi, je suis quelqu'un qui a du mal avec la fantasy, mais de façon platonique, en fait. C'est-à-dire que tant que je raisonne pas avec l'œuvre, je vais pas raisonner avec le genre, tu vois.
Ouais.
Et la SF, en fait, je raisonne immédiatement avec le genre parce que ce côté un peu scientifique, l'espace ou même des trucs genre le cyberpunk, etc. C'est des genres que j'adore. L'un de mes films préférés, mes deux films préférés, c'est Cyberpunk et la suite que Villeneuve a fait. Là, je suis en train de kiffer les films Dune, pour de bonnes raisons. J'ai joué à je sais pas combien de jeux de SF, j'ai lu je sais pas combien de trucs de SF. Enfin, je baigne dedans depuis que je suis tout petit et j'ai vraiment une appréciation pour la SF française parce qu'elle est particulière, il y a une petite patte qu'il n'y a pas ailleurs.
Elle a l'air d'être en train de revenir en ce moment, la SF française. J'ai entendu qu'il y avait des nouvelles séries avec plein d'acteurs français, peut-être plus ou moins connus, où genre ça tourne autour de la science-fiction. Mm. Et je trouve ça très cool parce que moi, tu vois, j'ai grandi dans les années 2000, contrairement à toi où t'as grandi au début des années 2000. En fait, le truc, c'est tout, comme toutes les trends, ça monte en popularité puis ça redescend pour remplacer avec une autre. La trend de mon époque, c'était pas la science-fiction, c'était le fantasy. On le voit bien. Ma génération, des 2006, je dirais même de 2000 à 2010, c'est des grands fans de Harry Potter. Moi, la science-fiction, quand je pense à de la science-fiction de quand j'étais jeune, c'est même pas Star Wars, c'est Doctor Who. Et c'est tout. Quand on m'a parlé de Star Trek, quand on m'a parlé d'autres séries de science-fiction comme ça, moi j'ai... j'étais en mode, c'est quoi en fait ? Moi je connais juste Doctor Who, et puis c'était aussi le début de beaucoup de séries d'animation pour les enfants, donc on a eu beaucoup... Je sais pas si on peut considérer certaines séries d'animation comme des séries science-fiction.
Bah en fait, c'est l'animation, c'est un genre, mais un genre peut être multiple. Tu peux avoir des séries d'animation de SF. Moi, je me souviens que je regardais beaucoup des trucs genre Code Lyoko. Code Lyoko, c'est de la SF.
Tu sais, moi, j'ai jamais connu de Code Lyoko.
Mais ça, c'est
mais le pire, c'est que ma génération, elle connaît Code Lyoko. Mais moi, j'étais en mode, mais non, enfin, c'est juste des personnages avec des très gros fronts. C'est
Ouais, non, c'est ça. Bah, après, tu vois, quand t'as dit que pas mal des gens comme toi de ton âge qui avaient grandi avec Harry Potter, moi, j'ai grandi quand les films sortaient. Donc tout le monde était à fond dessus.
Ah ouais.
Ouais, vraiment.
Non mais ça devait saouler à un moment.
Mais en fait je suis pas tombé dedans en fait. Je me souviens qu'à un moment donné il y avait le premier, je crois que le troisième venait de sortir, je sais pas quoi, donc je passais le premier à la télé. Et je me suis dit, je vais regarder, parce que tous mes potes en parlaient, on me dit, ouais c'est trop bien Harry Potter et tout. J'avais mon meilleur pote de collège, il adorait Harry Potter, il attendait la sortie des films avec impatience, il y avait tous les bouquins, enfin voilà. Et j'avais regardé le premier à la télé. Et là, c'était le début, donc il y a le setup, Harry Potter, il vit sous un escalier, tout ça. Puis il y a la scène où ils vont dans le zoo, il part un serpent, et c'est la seule scène que j'ai aimée du film. Après, j'ai largué le film, vraiment, j'ai fait bon, bah ça me saoule, je vais passer à autre chose. Voilà, parce que j'aimais beaucoup les serpents, donc j'étais en mode bah ouais, c'est cool. Voilà. Mais après, j'ai skippé plein de trucs comme ça, genre Pirates des Caraïbes, je me suis endormi après 10 minutes, tu vois.
J'ai jamais regardé Pirates des Caraïbes.
Ouais, voilà. Moi, je sais qu'il y a plein de gens de mon âge qui vont être en mode quoi ? Il s'est endormi devant Pirates des Caraïbes. Mais ouais, non, ça m'intéresse pas vraiment.
Ah ouais, c'est ça. En fait, t'as des films comme ça que t'aimes pas forcément parce que c'est pas ton style. Moi, tu vois, les gens trouvent ça sacrilège quand on dit Avatar, c'est pas mon truc.
Avec les hommes bleus là.
Ouais.
Ok, d'accord.
Non, pas Avatar, le dernier maître.
Ok, d'accord. Dune aussi,
tu vois, genre c'est. Tu peux considérer ça comme un sacrilège, mais perso, Dune, c'est pas mon kiff non plus.
Ouais, c'est pas grave, je le traite par-dessus le balcon après, mais mais je peux comprendre. Parce que Dune, en fait, c'est très vieux, ça se voit. C'est une vision de la science-fiction qui n'existe pas vraiment aujourd'hui, ce qui me peine un peu. Parce qu'en fait, c'est un truc qui m'énerve un peu, parce que je traîne dans plein d'univers à droite à gauche, et puis je suis sur Internet depuis tellement longtemps que j'ai quasiment tout vu, quoi. Il y a une forme de mouvement qui s'est créé sur la façon dont la SF fonctionne, et en gros la SF ça doit être tout doit être expliqué. Ou là où la fantasy t'as la magie qui est un peu en mode bon c'est de la magie,
ta gueule c'est magique,
voilà le fameux ta gueule c'est magique, et dans la SF tout doit être expliqué, même si l'explication elle est nulle à chier, tout doit être expliqué. Le problème c'est que la SF ça a toujours été comme la fantasy, c'est ta gueule c'est de la science.
Oui, ça aussi.
Ça a toujours été comme
les
ça.
Les vaisseaux spatiaux et tout ça.
Et donc,
comment ça marche ? Ben, tu comprendras comment ça marche quand on aura
C'est la technologie super avancée, tu comprendrais pas, tu vois.
Ça me va, je suis content avec ça, tu vois.
Oui. Voilà, donc c'est pour ça que moi j'aime bien Dune, parce que ça repart sur des trucs un peu comme ça, et puis Dune c'est quand même vachement...
Puis dans Dune, il y a une partie de fantasy un peu aussi.
Ouais, mais c'est dans le sens où ça écho la fantasy sans en être, tu vois. C'est pas comme, pour les gros gros nerds qui nous écoutent, c'est pas comme 40K où c'est clairement fantasy et science-fiction, tu vois. Ou même pour d'autres qui ont joué à des trucs un peu plus différents. Genre, je sais que par exemple dans D&D, on peut approcher un peu des aspects scientifiques avec voilà, des mechas, des golems magiques, tout ça.
Ouais.
Mais c'est. Ouais, non, c'est. D'une, c'est beaucoup plus. En fait, l'aspect fantaisiste dedans, c'est plus le fait que tu comprends pas cet univers-là. En fait, pour toi, c'est un univers qui est tellement alien, tellement lointain, que bah, toutes les conventions que nous, on aurait pour essayer de se raccrocher à leur univers, on les a pas.
Mmh.
Et c'est dur à. Et du coup, ça nous fait cet effet un peu de magie. De. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vraiment différent, etc.
Puis dans la science-fiction, elle a toujours ce petit ajout de fantaisie, mais qui est genre une toute petite pincée, tu sais, comme les super nanas.
Ouais.
C'est,
ouais.
Du sucre, des épices, et plein de bonnes choses.
Ouais, et un petit peu de magie.
Et une petite poudre de magie.
Oui, ouais, c'est clair. Bah, en fait, c'est beaucoup vu dans les trucs de SF qui sont un peu des piliers de la SF. Hein. Star Wars,
la Force.
La Force. Quand on parle un peu de SF, on a aussi pas mal de gens de SF qui commencent à parler de pouvoirs kinétiques, les pouvoirs psychiques. Dans Mass Effect, par exemple, c'est ça, la biomancie.
Ouais.
Voilà, c'est la même chose en fait. C'est un peu de magie, mais c'est de la magie scientifique. Donc ça passe.
C'est pas aussi la logique un peu dans Men in Black, le même délire. C'est en mode ouais, ça peut faire ça, mais t'inquiète, c'est technologique.
Voilà, c'est ça, c'est un peu comme ça. Alors, c'est un aspect qui est cool, hein, qui peut être très bien utilisé. C'est aussi un aspect qui parfois m'agace parce que du coup.
Mais c'est un petit peu, comment dire, une solution de poche, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'adore 40K, tu vois. Je connais 40K depuis assez longtemps. Ça fait que très récemment que je me suis mis dans le hobby, tout ça, étudier, tout ça. N'y rentrez pas. C'est trop cher, il rentre pas.
C'est vrai que c'est trop cher.
Mais le côté que je déteste le plus, c'est le côté le plus important de la franchise, c'est tout ce qui est chaos, warp.
Ça rallie toute une fanbase,
ouais,
que l'univers n'aurait pas s'il n'y avait pas ça en fait.
Ouais, voilà, ça. Moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup la hard SF, l'SF très expliqué, très. Oui, mais j'aime bien aussi le fait qu'il y ait une part qu'on comprendra jamais parce que c'est de la science-fiction. Quoi.
Ouais.
Il y a le mot fiction dedans. Il y a un truc qu'on comprendra pas jamais, c'est tellement lointain, on sait pas vraiment comment ça fonctionne. Et c'est pas grave. Vaut mieux ça que juste avoir des explications encore et encore et toujours et surenchérir. Et après, bah, t'es là avec un texte qui fait 40 000 pages et sur les 40 000, il y en a que 20 qui sont intéressants.
C'est pour ça que genre, je vais faire un petit tournant vers les jeux vidéo, où t'as des jeux vidéo, en fait, l'univers SF a l'air intéressant, mais en fait, ça se tourne super mal. Genre, il fait que utiliser des solutions de poche, et la plupart des jeux SF modernes, ils expliquent beaucoup trop de choses, et ça rend l'univers très fondé, hein, très cool, mais genre, dans le même truc, genre,
c'est plat, quoi.
C'est plat, ouais.
Ouais, c'est un truc... c'est un truc qu'on remarque pas mal aussi. Oups là, pardon. C'est un truc que je remarque pas mal aussi, c'est que... les jeux de SF, en fait, ils prennent l'esthétique en premier, et ensuite, tu fais ce que tu veux. Hein. C'était un peu le cas quand Code avait reçu énormément de backlash quand il avait sorti Infinite Warfare, tu vois. Ils étaient en mode ouais, mais c'est encore un jeu de SF, c'est nul. Et ouais, mais après, il y a des jeux de SF qui utilisent leur monde de SF de façon très intéressante et très intelligente. Il y en a qui explorent des trucs cool, tu vois, genre.
Dead Space.
Ouais, Dead Space par exemple, voilà, il y a de la fantasy dedans avec
grosse fantasy,
mais la façon dont SF est explorée dedans est très chouette aussi. Mass Effect, c'est pas devenu une franchise ultra connue, rien aussi. Moi j'y ai pas joué personnellement, mais
moi non plus.
Mais tu vois un peu ce qu'ils ont fait, l'univers, la façon dont ils en parlent, tu te dis ouais, il y a clairement une réussite derrière. Moi, les jeux de SF que j'aime beaucoup, c'est des trucs genre Stalker.
Ils sont très ancrés dans une réalité.
En fait, c'est vraiment genre, c'est le monde d'aujourd'hui, sauf que en Ukraine, là où il y a Tchernobyl, et en plus de ça, t'as des petites anomalies bizarres, t'as des artefacts qui donnent des pouvoirs magiques, etc. Mais c'est de la SF.
La même chose pour Pacific Drive.
Ouais, un peu, ouais, pareil, dans le même ton. D'ailleurs, Pacific Drive, c'est complètement inspiré ça. Hein. D'ailleurs, jouer à Pacific Drive, c'est très fun.
Oui, je suis d'accord, j'ai joué un petit moment et c'est très très bon.
Jouer à Stalker aussi, c'est fun.
Stalker, c'est Stalker,
mais tu vois, c'est des trucs beaucoup plus, on va dire, ça se voit que c'est de la SF, mais ça prend juste le concept de la SF et ça se dit, bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça en fait, ouais. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à la SF qui peut être intéressant, tu vois. Mais ça a toujours existé. Le truc, c'est que maintenant, c'est un peu fatigué. Quand t'as une explosion d'un genre, évidemment, au niveau de la fatigue, alors, les zombies. Mon dieu, j'ai grandi quand les zombies commençaient à être populaires et je les ai vus tomber à la ruine. Ouais, c'est compréhensible, tu vois. Quand tu satures le genre, bon, 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 bon.
Ouais, et essayer, comment dire, de rendre des zombies originaux comparé à d'autres zombies, c'est très dur.
Ouais, mais après, tu rentres dans les débats un peu pourris d'internet en mode c'est pas des zombies, c'est des infectés. Et je suis là en mode chut.
Tue-toi.
C'est bon, on a compris. T'as compris, tu vois. Mais c'est vrai que c'est très compliqué en fait d'itérer sur des genres un peu qui sont. Bah, en fait, on a un système simple. Quand c'est bien fait, ça donne des trucs cool, genre The Walking Dead, les comics, pas la série. La série est nulle. Ne regardez pas la série, c'est nulle.
Tu vas énerver beaucoup de gens.
Ouais, ouais. Non, mais je suis là pour énerver les gens. Je vais lancer une autre tech. Je n'ai pas aimé Cyberpunk 2077. Voilà. Voilà, les hot techs, c'est aujourd'hui, tu vois.
Très hot tech.
Ouais, voilà. Mais ouais, franchement, les comic books The Walking Dead, c'est très intéressant. Parce qu'en fait, ça prend le genre du zombie, ça prend le côté un peu horrifique, un peu peur, et ça pose des questions sur l'humanité, sur c'est quoi le rôle de l'humain, etc. Donc c'est plus intéressant, tu vois. Moi, mes bouquins de SF préférés récents, c'est genre les bouquins Métro.
Ouais, Métro 2033.
Ouais, qui ont été adaptés en jeu aussi. Et en fait, c'est un pote qui m'avait acheté Last Light en cadeau d'anniv, tu vois. J'ai joué, j'ai kiffé, j'ai appris qu'il y avait des bouquins, j'ai joué au jeu 33, j'ai acheté les bouquins avant que Exodus sorte, je les ai défoncés. Les bouquins, ils font 800 pages, je crois que je les ai lus en 2 semaines, quoi, tu vois. Dans... Et vraiment, j'ai kiffé, hein. 33, 34, 35, c'est peut-être les meilleurs bouquins de SF qu'il y a aujourd'hui. Et les jeux sont encore joués, des jeux fantastiques. Hein. Après, t'as l'auteur derrière qui a fait du bon boulot pour l'adaptation et tout ça. Et ouais, c'est de la SF, mais c'est de la SF qui essaie de donner quelque chose de nouveau. Bon, 33, c'est Fallout en Russie, hein, clairement. Hein. Mais après, ça se voit, parce que le gars, ça se voit qu'il aimait Fallout, etc. Mais après, 35 et 34, c'est vraiment genre, ok, j'ai set up un peu cet univers, qu'est-ce que je peux en faire ?
Non, c'est l'heure d'aller profond, quoi.
Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que je peux en faire ? 35, je vais pas spoiler, parce que c'est énormément de choses dans 35, mais en fait, t'as le personnage principal qui est complètement retourné, la situation du métro, elle est complètement changée. Il y a une grosse critique de la société russe, parce que l'auteur est russe, il est assez critique de sa propre société.
Et métro, ça se passe genre dans une URSS ou dans une Russie ?
En fait, ça se passe en Russie. Ouais. L'idée, c'est qu'en 2013, des bombes atomiques sont tombées. On sait pas qui les a lancées, on sait pas pourquoi, c'est un peu comme les bombes dans Fallout. C'est tombé, on sait pas qui, on sait pas comment, on sait pas pourquoi.
Dans Fallout, on sait si, hein.
Alors, il y a eu des explications, mais c'est des explications qui sont vagues, en fait. Ouais. C'est-à-dire que dans Fallout 4, tu peux découvrir qu'une station du gouvernement a détecté des missiles chinois. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement américain n'en a pas envoyé aussi, tu vois.
Ouais.
C'est ça, en fait. C'est que dans Fallout, la question de la bombe, elle est, c'est vraiment, bon, on s'en fout. La guerre, elle est faite, voilà. Mais dans Métro, c'est un peu pareil. Il y a la bombe, 2013, et en fait, ça se passe à Moscou, parce que pendant un temps, c'est pas vraiment le cas, hein, mais pendant un temps, en fait, le métro de Moscou était en fait un énorme abri nucléaire. Il avait été creusé très profondément pour la Première Guerre mondiale, et c'était un avantage. Je crois qu'il a 97 mètres de profondeur. Je sais pas pourquoi, hein, ils étaient déterminés, mais ils l'ont fait, tu vois. Et
c'est la paranoïa de la guerre froide.
Non, c'était pour la Première Guerre mondiale, donc c'était.
Première Guerre mondiale.
Ouais, c'était. Ouais, voilà, c'était quelque chose d'autre. Et ils se sont rendus compte, bah, en adaptant les systèmes, en mettant en place des coureurs blindés, etc., tu pouvais faire un abri nucléaire. Ce qu'ils ont fait, ça a été. Les fonds ont été coupés en 90, mais dans l'univers de métro, les fonds n'ont pas été coupés. Et en 2013, bah, y a la bombe qui tombe. Ton personnage principal, Artyom, en fait, est encore enfant, il est petit quand ça se passe. Il se refuge dans le métro. 20 ans plus tard, en 2033, tu suis Artyom et ses péripéties au sein du métro.
Putain, tu me donnes envie de lire.
Ouais, c'est très très fun.
Ça a l'air vraiment cool.
C'est très très intéressant. Artyom est un personnage principal très 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 cool, parce que en fait c'est un peu comme la société russe après la bombe. Lui aussi il a été frisé dans le temps. C'est-à-dire qu'il avait 6 ans quand les bombes sont tombées, et quand il a passé 20 ans, on va dire, dans le métro, mais il connaît rien en fait. Et il connaît rien du monde extérieur, il connaît comment le métro fonctionne, mais il connaît pas les autres peuples qu'il y a dans le métro, parce qu'il y a plusieurs petites factions. Il connaît pas les mécanismes du monde de dehors.
En fait, il est resté de son côté, quoi.
Bah, en fait, c'est le temps s'est figé, et lui aussi avec. C'est-à-dire que les gens ont continué leur routine dans le métro, ils ont pris une routine à eux, mais il n'y a rien de vraiment nouveau qui s'est développé, parce que c'est très dur de développer une nouvelle société en 20 ans.
Et surtout dans un métro où il n'y a pas de denrées, quoi.
Voilà, en fait, ils ont réussi à avoir de la bouffe, tout ça, parce que le métro militaire, il y a des trucs comme ça et tout.
Des caches.
Oui, il y a toute une explication. Mais il y a cette espèce d'idée dans le métro, et ça se voit un petit peu plus en 35, que la société russe, elle s'est arrêtée, genre figée au moment des bombes. Et que, en fait, toutes les factions que tu vois, c'est des reflets de cette société-là.
D'accord.
Et c'est assez intéressant parce que du coup Artyom, comme toi en fait, comme le lecteur, il découvre ce monde, et du coup la question c'est quel est l'impact qu'il va avoir dans ce monde là etc. Et qu'est-ce que ça veut dire, quelles sont les critiques que l'auteur veut faire de la société russe, mais à travers cette science-fiction en fait. Parce que faut pas l'oublier, la science-fiction ça a toujours été un peu
un moyen de dénoncer la société.
Ouais, c'est en fait ça a toujours été un peu une prof, elle est en train de prendre des leçons. Je pense que...
Tu vois, c'est pour ça que j'aime beaucoup les science-fictions. C'est pour ça que... Tu sais que je lis beaucoup de livres sur Warhammer 40 000 et tout ça.
Ouais.
Mais c'est pas ma science-fiction préférée.
Mmh.
Ma science-fiction préférée, c'est pas Star Wars non plus, c'est Halo.
Ouais. Non.
Ma science-fiction préférée, c'est Halo. Mmh. Parce que c'est, pour moi, le meilleur moyen de refléter l'humanité, genre dans un futur qui semble très probable, en fait.
Ouais.
Tu vois, genre, l'humanité dans Halo, elle s'est ralliée en un seul pays. Mmh. Comme beaucoup de science-fiction se l'imaginent, qu'elle s'est ralliée en un seul pays. Genre, dans Halo, c'est fait. Dans Helldivers, c'est fait.
Ouais.
Dans 40 000, c'est fait aussi.
Oui, Starship Trooper, pareil.
Dans Starship Trooper, c'est... En fait, l'idée que l'humanité se rallie, c'est... Je dirais pas que c'est un idéal, parce que dans les trois...
C'est un peu, ouais, une espèce de... Bah, ça va arriver, en fait.
Voilà, ça va forcément arriver.
Ouais.
Quand en fait... il y aura des colonies dans l'espace, l'idée d'un pays sur une planète, ce sera has-been en fait.
Ouais, voilà, c'est ça.
Donc il y aura de plus en plus, je dirais, je crois que ça s'est passé comme ça dans Halo. Il y a eu des fédérations, les fédérations ont décidé de s'allier toutes entre elles, et du coup, l'humanité est devenue maître de la Terre, maîtresse de la Terre, et donc il y a plus aucun pays, c'est juste la grande fédération de la Terre. Et l'UNSC, voilà, l'Union Nationale des Sociétés, ou un truc comme ça. De toute façon, c'est en anglais.
Donc. Oui, donc
Et le lore dans Halo aussi, même s'il y a beaucoup de fantasy, c'est... En fait, ils essaient de transformer la fantasy en science-fiction.
Ouais.
Par exemple, de pourquoi les Halo existent, ils disent que c'est créé avec les Forerunners, toute une espèce d'aliens qui n'existent plus, qui sont apparemment les ascendants des Covenants, c'est tout un bordel. Et le truc encore plus bordélique, c'est le fait que les univers jeux vidéo, livres et séries sont tous les trois séparés, en fait.
Ouais.
C'est ça le plus dur. En fait, tu choisis ton histoire. Moi, j'aime beaucoup les univers, l'univers de Halo des livres, parce qu'il explique des trucs, mais elle les garde quand même bien vagues, en fait.
Ouais, elle explique suffisamment pour pas trop dévoiler, mais juste ce qu'il faut.
C'est
pour
ça.
Que tu te dises, ah, il y a un truc satisfaisant à l'explication, sans pour autant donner tout dans la main du lecteur.
Tu vois, j'ai lu la chute de Reach. Ça n'a aucun rapport avec le jeu vidéo, parce que tu as des personnages qui sont de Reach, mais tu vois principalement le Major, genre le Master Chief. Et je dirais même que le livre se rapproche plus de la série Halo que des jeux vidéo, en fait. Et l'idée qu'une science-fiction ait plusieurs facettes, au niveau des auteurs et au niveau de, comment dire, des plateformes sur lesquelles elles sont présentées, c'est quelque chose de très commun maintenant.
Ouais, bah, surtout dans le cas des adaptations, parce que par exemple Metro 35, le dernier bouquin, a été adapté en Metro Exodus, mais c'est pas du tout la même chose, en fait. L'histoire, elle dévie en fait à un point qui apparaît dans les deux œuvres, qui est au tout début de l'œuvre, qui est un peu le setup. Et dans le jeu, ça part dans une direction complètement différente. Dans le bouquin aussi. Et ce qui est marrant, c'est que les deux viennent à la même conclusion.
Ils finissent par se rejoindre.
Voilà, il y a une espèce de conclusion narrative, je ne veux pas la spoiler parce que c'est très intéressant, qui est la même dans les deux. En fait, pour la façon dont l'histoire se déroule dans le bouquin, en fait, fait comprendre à Artyom plein de choses, fait réaliser plein de découvertes, etc. et il vient à une conclusion précise. Et dans le jeu, Exodus, le moment fort, tu sors du métro. Hein. Tu visites en fait plein d'endroits rattachés à la Russie, tout ça, et tu arrives en fait à peu près à la même conclusion que l'orphelin du bouquin.
Choses ont changé.
Voilà, c'est ça. Il y a plus que ça. Il y a quelques questions au niveau de l'autorité, les personnages que tu croises, les personnes qui sont autour de toi. Enfin, il y a des choses très complexes qui sont abordées, donc je veux pas trop spoiler. Mais ouais, c'est intéressant de voir que deux facettes un peu différentes du même univers, quoi, ont été explorées, arrivent à la même conclusion. Je pense que ça c'était délibéré, hein, l'auteur voulait que la conclusion soit pareille.
Ouais.
Mais que ça, cette différence un peu notoire de en fait là ça passe pas comme ça et là ça se passe comme ça.
L'auteur discute en lien avec les développeurs.
Ouais, il était consultant, donc il était quasiment presque dans un rôle d'écrivain, tu vois. Et puis même quand le jeu a commencé à un peu être publicité, parce qu'il est bientôt sorti, il était en publicité, il y avait des questionnements du style « Oui, quel a été ton rôle au sein du développement du jeu, etc. » Il a toujours été présent en fait. Le premier bouquin et la première adaptation, donc Metro 2033, le jeu vidéo, il était présent. Mmh. Et pareil, dans le jeu vidéo, tu tues énormément de gens. Dans le bouquin Metro 2033, Artyom, il tue une personne.
Ouais, mais dans un jeu, tu t'ennuierais de fou.
Alors, ça dépend, parce que bon, ils ont voulu faire un shooter, donc forcément, t'as besoin de tirer sur des trucs. Mais tu vois, il tue une personne. Et il y a une raison pour laquelle il fait ça, et c'est intéressant, mais dans le jeu Metro, il y a quand même cette notion de. Il y a une espèce de système de karma où t'as le droit de pas tuer. Même t'as des options complètement non létales. Donc, si tu veux faire comme Artyom et tuer qu'une seule personne, tu peux le faire. C'est assez intéressant. Pareil pour Last Light. En fait, Last Light, c'est marrant parce que Last Light, c'est un peu un jeu vidéo qui est canon dans l'univers des bouquins et des jeux. C'est-à-dire que dans
c'est
35.
Une plateforme, c'est un.
Ouais, c'est un espèce de pont entre les deux.
Ouais.
Et dans 35, il y a des références à Last Light. Si t'as pas joué à Last Light, tu sais pas trop de quoi il parle. C'est pas lourd, tu vois, c'est pas genre en mode t'es obligé d'avoir joué à Last Light pour comprendre ce que le bouquin dit.
Ouais.
Mais si tu as joué, tu comprends un petit peu plus les choses.
C'est sympa.
Ouais, franchement, ça se voit qu'il avait vraiment de l'intérêt à être présent au sein du jeu vidéo, mais bon, c'est vrai que le gars il a grandi sur des trucs de jeux vidéo. Quand il a commencé à écrire Metro, en fait, c'était sur des plateformes en ligne, tu vois.
Ah, ouais.
Il publiait en ligne. Et au tout début de son bouquin, à la base, Artyom il meurt. Hein. Genre vraiment, deuxième chapitre, il meurt. Donc là, il a été réécrit quand il a été publié, il a changé une trame narrative, etc. Mais ouais, il avait commencé sur des plateformes en ligne, sur des formes de jeux vidéo. Donc ouais,
Et Metro aujourd'hui, c'est un nom que même si tu connais pas les jeux vidéo, genre tu sais quoi.
Ouais.
T'en as entendu parler quelque part.
Bah en fait, tu vas dans une librairie, tu vas à Mola, tu vas dans la section science-fiction et tu vas voir le bouquin, il est là.
Bah, c'est devenu presque aussi. Comment dire, c'est presque devenu. En fait, c'est un peu niche, mais en même temps pas.
Ouais, en fait, dans la niche, c'est connu.
Voilà.
C'est comme ça que je verrais.
C'est ça, un peu comme. Alors, je fais une drôle de comparaison, mais c'est un peu comme 1984 en fait.
Ouais.
Genre 1984, t'en as entendu parler, tu l'as peut-être pas lu, mais tu sais que ça existe.
Ouais.
Comme Metro, du coup.
Ouais, ouais, voilà. C'est sûr que 1984, c'est beaucoup plus sur une échelle plus longue, parce que c'est un pilier de la littérature. Et c'est de la SF aussi.
Mais Metro, genre comment j'en ai entendu parler, c'est aussi une sorte de pilier de la littérature. Hein.
Mmh, ouais,
surtout de la littérature science-fiction moderne.
Ouais, ouais, parce que il a vendu énormément de bouquins, il a eu une popularité énorme. Et puis surtout, en fait, c'est. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un auteur russe qui s'est démarqué à l'international. La Russie.
C'est rare.
Ouais, la Russie, en fait, est un peu. À cause de la langue, principalement. C'est très difficile d'avoir de bonnes traductions, c'est très difficile de sortir, très isolé. Voilà, l'histoire russe, je pense que la plupart des gens, mais comme moi, hein, ils connaissent l'URSS peut-être un peu, mais tu leur demandes ce qui s'est passé avant, comment ils vont être là en mode, je sais pas. Donc c'est très difficile de.
La monarchie russe.
Voilà, ça, on connaît pas tout ça, et donc on connaît pas aussi leur œuvre littéraire, on connaît pas. On connaît certains trucs, hein, évidemment, par exemple des composants de musique ou des politiciens, mais on n'a pas le même rapport que, par exemple, aux États-Unis, tu vois.
Ouais. Je pense que c'est pour ça qu'on a beaucoup aujourd'hui de science-fiction qui tourne autour de la Russie. Parce qu'en fait, il y a toujours genre, cette idée que quelque chose est caché.
Ouais.
Même si, en fait, même si genre, on te dit qu'on t'a tout montré, t'as toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui est caché. C'est comme ça qu'on a des jeux du coup, comme Metro et des livres. On a tellement de trucs en référence à la Russie. Genre, on a Atomic Heart. Même
ouais.
Si c'est pas le meilleur exemple.
Oui.
Il y a Atomic Heart, il y a Stalker.
Ouais. C'est pas ukrainien, mais oui.
Oui, mais quand on parle, ouais. On parle plutôt de l'URSS.
Ouais, là, voilà, c'est vrai que. Ouais, après, c'est intéressant parce qu'il y a aussi l'effet de la guerre froide et tout ça qui a amené en fait les Russes à être le grand méchant. Et donc, c'est vrai que parfois, même dans la SF, on va dire un peu pas forcément très éloigné, on les voit aussi comme des grands méchants. Mm. Enfin, je sais pas, mais des trucs genre Command and Conquer,
ouais,
Red Alert.
Dans tous les jeux, ouais, Red Alert.
Voilà, Red Alert, il y a des gros pans de SF dedans et c'est des gros clichés russes. Et c'est marrant parce qu'ils aiment bien ces clichés-là aussi, les Russes. Ils trouvent ça marrant en fait, la façon dont on les portrait.
Ouais, ils kiffent. C'est ça qui est drôle, j'en ai parlé avec. Je connais des Russes qui parlent anglais. Et une fois, je leur ai demandé vous en pensez quoi de l'image qu'a le monde sur vous ? Et sur notre en fait, on l'aime bien, mais on l'aime pas trop non plus.
Mmh. Ouais, c'est ça, c'est tant que c'est pas méchant.
Ouais.
Ça va, ça passe.
C'est ça, en fait ils m'ont dit nous on aime bien l'image qu'on nous donne de gens qui restent dans le froid, qui évoluent genre dans un endroit assez compliqué et qui développent des technologies très industrielles et dans la camaraderie et tout ça. Mais s'il vous plaît, on parle pas du gouvernement.
Ouais, ouais. C'est sûr qu'il y a toujours ça. Ouais, non, mais c'est vrai que tu as beaucoup ça dans la tête, de toute façon, le fait de prendre des idéologies ou même des pays et en faire un peu un centré dessus.
T'as des artistes qui ont aidé beaucoup dans ça. J'ai oublié le nom de cet artiste, mais il y a un jeu vidéo qui s'est beaucoup inspiré de lui, c'est Génération Zéro.
Oui,
tu vois duquel
je
parle.
Ouais, je vois très bien. Ouais.
J'ai un pote qui m'en avait parlé, genre, en fait, et il me disait que cet artiste avait beaucoup inspiré les gens au niveau de, en fait, de l'art, comment dire, de la. On peut dire techniquement du russo-punk. Hein,
ouais, voilà, ouais.
Du russ-punk. Hein.
Ouais, c'est ça, du. Alors, c'est souvent. C'est souvent lié avec l'URSS. Mais ouais clairement ouais, non, mais c'est pas nouveau en fait dans la SF de voir ce genre de choses, de voir en fait un pays devenir un peu le point névralgique d'un développement. C'est souvent on a souvent en fait des idées un peu voilà, c'est les Américains qui ont la première technologie qui a avancé, ou c'est les Européens qui ont développé ça, mais ça arrive de voir aussi se concentrer sur des trucs un peu plus il y a les underdogs, tu vois.
Ouais.
Moi, j'ai déjà vu des univers de SF qui parlaient du fait que ouais, l'Amérique du Sud devenait en fait un point névralgique du développement scientifique. Pareil, tout ce qui va être Afrique ou même des endroits. Bon,
ouais, en fait, rien que de faire ça, ça rend l'œuvre tellement plus originale par
ouais.
rapport aux autres.
Bah, c'est-à-dire que vu que nous, on est européens, avec une culture très eurocentrée et américano-centrée aussi, bah, ça nous change un peu, tu vois, de voir d'autres trucs comme ça.
Ça fait toujours plaisir.
En ouais,
fait.
Ça. Là, en ce moment, ça se voit un peu aussi dans les blockbusters américains, il y a une très grosse concentration sur l'avancée technologique de la Chine. Et ouais, c'est pas nouveau. La Chine est souvent mise comme étant, surtout récemment, une espèce de. Ouais, méchant, mais aussi ces gens-là qui arrivent à arriver avec des technologies ultra avancées. On dit, c'est surprenant et tout. Enfin, bah non, les gars, ça fait des années qu'ils bossent là-dessus. Enfin, ça se voit, tu regardes un peu comment la Chine fonctionne. Ouais, ils bossent à fond là-dessus, donc c'est normal qu'ils font ça. C'est pareil, le Japon a toujours été vu comme étant cette espèce de machine technologique.
Alors qu'en fait, c'est vraiment juste des perfectionnistes.
Ouais.
Ils prennent beaucoup de temps, mais quand ça sort, en fait.
Bah, c'est bien.
C'est très bien, même.
Mais voilà, puis même, tout ce qui va être SF asiatique a vraiment été importé un peu partout. Notamment en France, parce qu'on a énormément consommé de manga.
Ouais.
Et plutôt que l'Amérique.
Bah, la science-fiction japonaise, on la voit bien en France. Hein.
Ouais.
T'as Goldorak, t'as Evangelion.
Ouais.
Même si Evangelion.
Plus.
Plus fantasy en vrai.
Ouais,
hein,
voilà,
quand
ça.
Tu réfléchis.
Et t'as tout ce qui est Gundam.
Gundam, ouais.
Ouais, voilà, t'as tout ça. T'as. Ouais,
c'est
ouais, voilà. Non, mais c'est vrai, mais parce que les premiers trucs que nous on a emportés bien avant que les Américains le fassent, parce que c'est des trucs japonais. Genre Dragon Ball Z, c'est la fantasy SF.
En vrai. Dragon Ball Z, c'est un super mix de science-fiction
ouais.
et de fantasy. Hein.
Mmh. Ouais, complètement. Et bah, on l'a eu, genre, je crois qu'on a eu l'animé 5 ans ou 7 ans avant les États-Unis.
Ouais. Et l'animé aux États-Unis, il est moins bien. Genre, t'as les voix qui sont moins bonnes, t'as
ouais.
les musiques qui sont moins bonnes.
Ouais, ouais. Bon, après, il y a 2-3 trucs par rapport à comment on a géré les animés en France qui est questionnable. Hein.
C'est vrai, on les achetait à l'appel et on les traduisait
vraiment à la
cuisine.
Ouais, c'est ça. Après aussi c'est parce qu'on prenait un peu de tout. En fait on avait des animés pour un public plus jeune, on avait des animés pour des publics adolescents et on avait aussi des animés pour adultes. C'est un truc qui est assez nouveau pour nous en Europe et même aux États-Unis, l'animation pour adultes. Alors qu'au Japon bah ils avaient fait ça depuis.
Voilà. Ouais, c'est clair.
Et donc quand bah ouais c'est vrai que quand tu passes, je sais pas moi, Juliette je t'aime ou Dragon Ball Z et juste après tu vas passer genre Nicky Larson qui et Nicky Larson là c'est un chasseur de primes qui en met dans des affaires politiques, il y a des meurtres vraiment sanglantes, t'es là en mode
assez pervers aussi.
Voilà, et t'es là en mode bah c'est pas pour un enfant. Donc oui. Forcément on a traduit ça un peu comme on pouvait quoi. Mais c'est vrai que du coup nous on a absorbé beaucoup plus de SF d'autres pays plus tôt, notamment la SF Jap. Et évidemment nous je vais le dire mais la SF elle n'existerait pas s'il n'y avait pas eu la France entre deux, tu vois.
C'est clair. La SF japonaise et la SF asiatique en général, si elle existe en Europe, je dirais même que c'est grâce à la France.
Ah ouais, bah on l'a apporté chez nous, mais moi je veux dire la SF comme on la voit aujourd'hui, tu vois. Parce que bon, bah c'est vrai qu'on note souvent genre Mary Shelley pour Frankenstein, un des vrais premiers bouquins de SF, et oui, en effet, ça se voit que c'est de la SF. Mais tout ce qui va être l'image, l'esthétique, même la notion de faire des films de SF, ça vient de la France. Enfin, le premier film de SF français, 1919, genre Ménès, quoi, tu vois. Voyage sur la Lune.
Mais, Voyage sur la Lune.
Ouais, voilà, c'est ça, c'est français. Et puis après, bon, on a eu des trucs genre Metal Hurlant, qui a été un peu transporté ailleurs en heavy metal. Et Metal Hurlant, bah, c'est là où on a eu énormément d'artistes français qui ont pu publier leurs premiers petites BD de SF, etc. Et sans Metal Hurlant, vous n'avez pas en fait énormément des piliers de SF d'aujourd'hui, quoi. Parce que ça a eu un impact tellement fort à travers le monde que c'est encore cité comme étant l'une des plus grosses inspirations. En Angleterre, il y avait un peu pareil avec 2000 AD, c'est là où on avait par exemple Judge Dredd à apparaître, etc. Voilà. Mais c'est en fait on n'aurait pas eu la SF française, je pense qu'on n'aurait pas eu la SF tout court telle qu'on l'a aujourd'hui. Je parlais du cinquième élément plus tôt. Beaucoup de gens le voient comme un blockbuster américain, parce que bon, bah, même si c'est des sons, ça a été fait avec des acteurs américains, pour un public américain, avec une trame narrative américaine. Mais tu regardes par exemple le cinquième élément et tu regardes les enfants La cité des enfants perdus, voilà. Il y a quand même une espèce de saveur aux deux qui est typiquement
français.
C'est très difficile à dire parce que moi j'arrive pas à mettre le point dessus, mais la SF française n'est pas la SF américaine.
Mais en fait, la SF française, je dirais qu'elle essaie moins de se prendre au sérieux que la SF américaine. Genre, la SF française cherche moins à comprendre que la SF américaine.
Ça peut. Ouais, je sais pas, ça dépend. Pour moi, c'est plus une question de comment le genre est géré en fait. C'est pas juste une façon de thème narratif ou de se prendre au sérieux ou pas. C'est plus en fait il y a une façon de faire qui est français derrière. Tu vois, genre récemment j'ai vu un film français de SF qui s'appelle Mars Express. Vous pouvez y accéder avec votre bibliothèque en ligne de la fac, truc numérique. Allez-y, le film est génial. Film 2D animation français SF, le truc improbable.
Sorti en quelle année
Il y a deux ans, 2023.
Ah, il est récent.
Ouais, il est super récent. Il a eu un sacré succès et moi j'avais peur que en fait la SF soit un peu fatiguée. Puis en plus c'est du cyberpunk et pour moi le cyberpunk est très fatigué. Puis j'ai regardé le film, j'ai dit non, c'est bon, tout va bien en fait. C'est du bon gros cyberpunk. C'est un thriller en fait, on suit une détective qui enquête sur un robot qui a, on dirait, réussi à devenir indépendant. C'est pas la première fois que dans l'univers du film ça arrive.
iRobot.
Voilà, un peu, ouais. Il y a un peu de iRobot, mais en mieux fait, je trouve.
Sans Will Smith.
Voilà, c'est ça. mais ouais, il y a cette question un peu de. Ah ouais, mais normalement, c'est pas censé arriver tout seul en fait. Un robot n'est pas censé devenir indépendant tout seul, etc. Et il y a toute une question anti-capitaliste qui est très intéressante. Parce qu'en fait, c'est un univers cyberpunk qui passe au biopunk. Donc tu vois, au lieu d'être dans la machine, c'est aussi la chair. Et tu vois l'aspect transitionnel dans le film qui est très intéressant.
C'est cool.
Très très intéressant. Ouais, franchement, c'est chouette, mais il y a un truc. Je pourrais pas me mettre le doigt dessus. Tu l'aurais fait. Ouais, ça c'est français.
Ah ouais.
Ouais, ça c'est français. Tu vois.
Peut-être le lip sync.
Bah vu que c'est l'animation, c'est doublé forcément. Mais non, le doublage était correct. Mais je sais pas. Il y a un truc qui. Parce que même tu vois en lisant des BD de SF françaises, il y a. Elles peuvent être très différentes. Genre Sillage, c'est un space opéra. Universal War One, c'est un thriller politique et ça prend de voyage en temps, donc complètement différent, tu vois. Le style graphique est complètement différent. Sia, j'ai beaucoup plus cartoonesque. Universal Grand, c'est très. Ça fait vraiment penser à une photo presque. Le dessin est propre, nettoyé, c'est des scènes épurées. Et les trames narratives sont complètement différentes. Et pourtant, j'étais, à chaque fois que je disais Universal Grand, j'étais comme ah, punaise, ça me donne la même impression que Sia, le même saveur, le même truc. Ça me fait titiller la même partie de mon cerveau en mode, tu vois, c'est ça. Ça, c'est SF français, ça.
Pas mal, non?
Ouais.
Mal. C'est français.
C'est français.
Enfin, on continue de parler du cyberpunk. Il y a une trame que j'ai remarquée avec le cyberpunk, c'est que des années 80 aux années 90, le cyberpunk de ces années-là est pas du tout pareil que le cyberpunk d'aujourd'hui.
Ouais.
Le cyberpunk des années 80 et 90, c'est pas plus tôt même, genre c'est très sleek, genre c'est très genre fin, avec beaucoup de formes, avec beaucoup de formes sans angle, et très chromé, genre très autour du synthwave.
Ouais, vraiment, ouais, il y a cette notion-là.
Et je dirais même que j'aimerais beaucoup voir des films aujourd'hui dans ce style de cyberpunk. Que dans le style de cyberpunk moderne, ou ce qui est vraiment très ancré dans notre réalité, en fait.
Alors, ouais, je suis un peu d'accord avec toi, et pas trop non plus, parce que par exemple, tu regardes Blade Runner, des années 80, cyberpunk au fond, et là, c'est béton, pluie, tu peux sentir la ruelle dans laquelle le personnage
principal. Tu sens.
Voilà, et tu sais que ça sent pas bon, quoi, tu vois. T'es là en mode, tu sais qu'il y a plus de CO2 dans cette ruelle qu'il y a dans tout l'univers, quoi, et c'est. Mais c'est vrai qu'il y a aujourd'hui on se rapproche plus du, on va dire du réel. Le jeu vidéo Cyberpunk 2077, un peu ce côté-là de, t'as un peu ce côté sleek,
ouais.
Mais pas trop. Tu vois que c'est quand tu arrives dans les endroits un peu plus industriels de la ville, t'es là en mode ouais c'est vraiment genre c'est lourd.
Ouais.
Mais après c'est le cyberpunk est censé être lourd, en fait le cyberpunk est censé être oppressant, censé être.
Mais j'irais jusqu'à dire que 2077 est pas aussi lourd que du vrai cyberpunk.
Non, parce que c'est pas du cyberpunk. Spoiler alert. Mais c'est pour ça que je l'aime pas d'ailleurs. Hein. C'est que je
en
cherche.
Fait, je vois pas assez de clapple. Je vois pas assez de chrome.
Bah mais ça c'est l'esthétique, tu vois. Pour moi l'essence même du cyberpunk c'est pas l'esthétique, c'est le message que ça porte derrière. Tu vois genre Blade Runner, le premier et ce qu'a fait Villeneuve avec dans 2049. Le message c'est que c'est vraiment genre anticapitaliste, tu vois. C'est genre vraiment la société dans laquelle on va vivre, elle va mener en fait à cette espèce de monde horrible. Et si on fait pas quelque chose, ça va être de pire en pire. Villeneuve le voit à travers les réplicants, où en gros, on t'explique que les réplicants sont pas considérés comme des humains, mais en fait, c'est juste des bébés éprouvettes, quoi. C'est vraiment juste des bébés éprouvettes, et il leur retire juste les organes reproducteurs pour dire, en fait, s'ils arrivaient à avoir des enfants comme nous, on les considérait comme des humains normaux, et du coup, je pourrais pas les vendre, quoi. Et là, on dit, ah ouais, le vilain te dit ça direct, calmos, quoi. C'est vraiment, c'est censé être un peu punk, justement. C'est censé être vraiment en mode ce que le monde dans lequel on vit, et le monde du cyberpunk, c'est un monde dont c'est pas bien. Il faut changer ces notions-là, il faut parler de choses, il faut aller ailleurs. Et dans le jeu vidéo, seul truc punk que tu fais, c'est un truc que tu faisais déjà dans le TTRPG quand il était sorti, quoi. Tu revis juste ce qu'a fait Johnny, et puis voilà. La fin ajoutée par le DLC est super bien écrite, le DLC est super bien écrit. Mais j'étais là, mais il est où le punk, quoi?
Je dirais que tu vois plus de cyberpunk dans la série que dans le jeu.
Ouais, je trouve un peu, ouais. C'est vrai que Edge Runner est beaucoup plus terre à terre par rapport à ça. Mais après, le truc, c'est qu'Edge Runner, c'est vrai que c'est une grosse publicité pour le jeu, quoi.
Oui, clairement.
Clairement, mais.
C'est dommage.
C'est dommage parce que. En fait, le truc, c'est qu'ils ont bien fait leur boulot, quoi. C'est bien écrit, c'est intéressant, c'est une histoire fun. Il y a un peu ce côté punk encore dedans, tu vois.
Et triste.
Voilà.
Ça fait pleurer.
Ah, ouais, voilà. Mais c'est. En fait, à chaque fois que j'ai joué au jeu quand il était sorti, il tournait sur ma machine à l'époque. Mon Dieu, j'étais chanceux. Et puis j'étais là en mode ok, je l'ai fini, mais c'est pas intéressant. J'ai attendu le DLC, j'ai attendu tous les patchs correctifs, etc. J'y ai rejoué et j'étais en mode ok, le jeu est stable. Le gameplay, il était fun avant, c'est un peu toujours le même. Il n'y a pas de grande différence. Il est fun encore, mais l'histoire est pas suffisamment intéressante et pour un RPG, il est où le roleplay, quoi? Il est où le roleplay? Et encore une fois, pour le cyberpunk, il est où le punk?
Putain, en vrai, j'adorerais qu'ils ouvrent Cyberpunk 2077 au multijoueur. Comme ça, t'aurais des serveurs RP de gros malades.
Ils avaient dit ça au début.
Et non,
je crois que c'est Je sais qu'ils travaillent sur une suite, ils ont dit qu'ils étaient en train de travailler sur une suite, qu'ils allaient prendre leur temps avec ça.
Est-ce que du coup ils vont l'appeler 2078?
Je sais pas. Je sais pas. Je crois que c'est un nom, mais c'est les noms temporaires de projet. Voilà. C'est... Mais ouais, non, je sais pas. Il faut voir ce que ça va donner parce que bon, bah moi, les derniers jeux cyberpunk, mais vraiment cyberpunk, auxquels j'ai joué, bah, c'était Valhalla.
J'y pensais, Valhalla.
Valhalla et Art Spaceship Breaker. Et dans Space Shipbreaker, c'est vraiment c'est un job simulator. Hein. C'est supermarket simulator. Donc, en fait, t'es quelqu'un qui détruit des vaisseaux, enfin qui démonte des vaisseaux spatiaux.
T'es un scavenger.
En fait, tu travailles pour une boîte qui récupère des vaisseaux, qui les démonte et qui récupère tout ce qui peut être récupéré. Genre, le panneau là, le métal il est pas endommagé, bah hop, on récupère. Tiens, il y a plein d'ordinateurs dedans, on les récupère parce que ça vaut de l'argent, etc.
Ça a l'air cool.
Très très fun. Et ça part en fait de la condition du travail en général, tu vois, la trame narrative, c'est que tu formes un syndicat, il est quand même pas. mais tu commences le jeu, en fait, vraiment, c'est très drôle. C'est, tu commences le jeu, t'as un petit article comme quoi, bah, sur la Terre, c'est la mer, ailleurs aussi. Tu commences à t'inscrire pour bosser pour la compagnie. Ils te demandent qu'est-ce que vous voulez comme type de repas. Donc, t'as toutes les options un peu sans viande, sans gluten. Et t'en as une qui est très drôle, c'est sans plastique. Et là, ah oui, c'est vrai. voilà. Et puis après, t'as les conditions de travail. C'est pour signer le fait que vous travaillez avec nous, vous allez devoir voter aux prochaines élections pour le patron de la boîte qui va se présenter au présidentiel. Voilà. Et, ah, cool, super. Et tu commences le jeu et on te dit y a un système de revive dans le jeu, en fait, parce que tu peux mourir dans les accidents, en fait il te clone basiquement pour revenir à zéro. Et là vraiment tu commences le jeu, tu crèves et on te reclone.
Ah ouais?
Ouais, vraiment tu crèves, on te reclone parce qu'en fait pour t'enregistrer dans la machine
on doit tuer.
Donc là on a
ok, cool. Imagine faire une run no death.
J'en ai fait une, c'est très chiant. Et du coup, tu sors de la machine de clonage, t'es envoyé dans ta petite capsule en orbite pour démonter des vaisseaux, et t'as ton écran d'ordi qui s'allume, et tu fais, alors du coup, pour le frais de t'envoyer là-bas, le frais de faire ceci, de faire cela, de te cloner, etc., bam, bam, les frais, et t'as tout un dernier frais qui m'éclate, c'est le dernier frais, c'est le frais de t'afficher les frais. Le frais de te montrer combien ça te coûte.
C'est trop drôle.
Et à la fin, t'as une dette de 1 milliard, quoi.
Ouf.
Voilà, tu dois, en gros, le but du jeu, c'est de casser sa dette de 1 milliard. Parce que ouais, tu commences le jeu, en fait, t'es un esclave à la compagnie, quoi. Parce que chaque partie du vaisseau que tu vas vendre, le quota que tu vas donner à la fin, là, c'est directement pompé dans ta dette. En mode,
t'es pas payé, quoi.
Voilà, t'as un quota à respecter, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu dois faire, je sais pas, moins 580 000 crédits de bénéfices. Tu fais ton quota, ok, cool. Mais si tu fais pas plus, ta dette, elle reste la même.
Ok.
Voilà. Et pour réparer
T'es pas pénalisé.
Mais après, faut réparer tes équipements. Donc du coup, faut payer la compagnie. Donc du coup, pour réparer tes équipements, pour les améliorer, c'est à la compagnie. Du coup, ta dette, elle augmente. Et en fait, si tu fais pas un quota plus haut que ce qui t'est demandé, ta dette, elle baissera jamais. Elle restera toujours au même niveau. Et ouais, c'est très intéressant parce que du coup, c'est vraiment du punk. En mode, ouais, t'es dans une situation mais pourrie. Et t'as que en formant un syndicat que tu vas avoir au moins un minimum de droits. Parce que t'apprends que quand ils te clonent, ils gardent l'information de ton clonage. C'est-à-dire que si ton contrat avec la compagnie se termine, bah, tu peux être, je sais pas moi, sur Terre ou sur Mars, vivre ta vie tranquille, mais ils peuvent te cloner et te faire continuer à bosser ton clone, tu vois. Des trucs comme ça. Donc c'est très intéressant, ça approche le motif du punk assez fort. Et il n'y a pas ça dans Cyberpunk, tu vois. Il n'y a pas ça dans Cyberpunk. Il y a aussi tous les défauts du cyberpunk qu'on avait vu dans les années 80 où, tout ce qui est asiatique est dangereux. Voilà, la compagnie méchante, c'est des Asiates. Ouais, voilà, t'es là en mode. Voilà, t'es là, mais ok, je comprends.
C'est de la faute des Chinois.
Et voilà, il y a un peu ce. C'est pas explicité, tu vois, parce qu'ils comprennent. Les auteurs du jeu, ils ont compris que c'était un motif un peu chiant. Parce que du coup, quand tu vois les compagnies américaines qui sont dépeintes dans le jeu, elles sont toutes aussi horribles. Et Johnny étant américain et bossé pour certains d'entre eux.
Ouais, mais après, si tu pars de logique, tu vas pas sortir une entreprise africaine.
Ouais, voilà, c'est ça. C'est le problème, c'est que ça s'est servi de son matériel de base, donc le jeu de table Cyberpunk. Et ça a dû, en fait, ça a pas voulu trop partir loin. Et du coup, ça a ramené les torts que le jeu avait, donc cette espèce d'orientalisme un peu en mode le Japon, la Chine, ça fait peur. C'était un peu chiant, mais bon, c'est des aspects qui sont pas super présents dans le jeu, tant mieux. Mais il y a pas, encore une fois, il y a la thématique pour moi est assez dissonante, c'est pas punk.
Mais dans Cyberpunk, t'es censé être anti-corpo. Mm-hmm. Mais
bah, c'est ça qui est intéressant, parce que la campagne la plus punk, enfin la plus cyberpunk, c'est la campagne corpo. C'est quand tu prends le passé corpo et que tu fais toute la fin corpo en travaillant pour Arasaka, etc. Parce que c'est la fin la plus pourrie du jeu, c'est vraiment, il n'y a rien de bien qui se passe à cette fin.
Oui, mais Cyberpunk, une fin mauvaise, bah c'est une bonne fin.
Voilà, justement, en fait, c'est là où ils ont compris. Le problème, c'est que c'est assez l'unique fin, et c'est la fin que pas grand monde va prendre, parce que vu que le cyberpunk est censé être anti-corpo, qu'est-ce que tu vas bosser pour la corpo, quoi? Qu'est-ce que tu vas bosser pour les corpos? Alors que c'est intéressant d'étudier cet angle-là. Moi, j'aime bien la fin que tu prends avec les Aldecados, c'est que tu te barres, parce que je trouve la fin assez bittersweet, tu vois, genre c'est triste, mais c'est joyeux, tu vois. Et puis il y a cette notion que tu quittes Night City, et que Night City, c'est un peu cette espèce de truc qui va t'avaler.
Cet amalgame de.
Voilà, c'est vraiment ça. Tu es en mode ouais, c'est la cité où tout est possible, et en fait, non, c'est pas vrai du tout.
Rien.
Ouais, c'est juste une immense gueule ouverte, et toi, t'es juste le prochain, prochain amuse-bouche, quoi, tu vois. C'est...
Une personne meurt dans Night City.
Ouais, c'est normal, quoi.
C'est normal.
Ouais, et en fait, t'es juste. Donc c'est bien de se barrer, tu vois, de sortir tout ça. Mais encore une fois, j'étais pas satisfait. J'étais en mode, ouais. Le DLC était fun, mais la fin, j'étais en mode. Ah, twist. Mais c'est juste le voyage du héros, sauf que au lieu d'être hyper puissant à la fin, il est juste nul à chier à la fin, quoi.
T'as pas de grosse conclusion. Non. En fait, le truc, c'est que la grosse conclusion, tu l'as, mais au début du jeu.
Ouais, vraiment, ouais.
Genre à la mort de V. Désolé du spoil du jeu. Non, hein,
ouais, c'est le début.
C'est le début du jeu. À la mort de.
De V, ouais, t'as la conclusion.
Non, pas V, son pote.
Ah oui, de. Oui, je sais plus non plus, mais
tu vois
ouais.
Qui je parle,
ouais.
son pote espagnol,
ouais.
Hispanique.
Hispanique. Ouais. Je sais plus comment il s'appelle, ouais, mais oui, quand il meurt, ouais, t'as la conclusion. Ouais.
Oui, c'est ça, t'as la conclusion.
De Night City n'est pas là pour te.
Bon, pas, c'est, bon on disait, tu vois, le jeu il finit maintenant, tu sais, j'aurais été contente.
Ouais. C'est vrai.
Ben, ils auraient dû mettre cette fin à la fin.
Ouais. Après, ça se voit que le jeu a tous les défauts du jeu, en fait, c'est pas contre les développeurs, les écrivains, etc. Plus contre la compagnie, il va falloir essayer de produire. C'est vraiment le fait que le jeu était rachetée. Enfin, vraiment, ça se voit qu'ils n'ont pas eu assez de temps pour
ils
développer.
Ont été attaqués par les investisseurs en fait.
Ouais voilà, clairement ça se voit. Le jeu a été rush et du coup bah, ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient faire.
C'est dommage.
C'est triste. J'espère qu'ils pourront pour le prochain. Parce qu'en plus c'est pas des idiots hein. Les Witcher, bon moi j'y ai pas joué évidemment, pas fantasy. Mais c'est un succès phénoménal pour une bonne raison quoi. Ils sont doués, ils savent écrire, ils savent faire les choses.
Ouais.
Là il y a le prochain en plus qui va sortir je crois, Witcher 4.
Ouais.
Donc. Moi j'espère que le prochain c'est bon pour Melco, j'espère que les prochains jeux de SF qu'on va arriver vont être chouettes. Là par exemple, bon, bah, là, tout récemment il y a Stalker 2, je l'ai fini, très très chouette, très très intéressant. En plus, bon, bah, les développeurs ukrainiens ils ont fait ça en plein milieu de la guerre, GGE quoi. C'est vrai que le jeu était pas trop stable quand il est sorti, mais bon, t'as sorti un jeu en plein milieu d'une guerre.
C'est pardonnable.
Ça va, ça passe. Ouais, c'est bon.
T'as des entreprises américaines qui sortent pire que ça,
ouais,
avec genre deux fois plus de temps, tu vois.
Ouais, c'était aussi un peu pareil pour les métros. Hein. Last Light était sorti, le studio de développement était en plein milieu des zones de guerre ukrainiennes lors de 2014-2015. Mm-hmm. Donc, ouais, les mecs ils ont géré, tu vois. Développeurs ukrainiens, on a l'habitude.
C'est
la guerre, on a l'habitude.
Keep pushing.
C'est pas grave. Mais ouais, non, c'est. Non, j'espère que les prochains trucs de SF qui vont sortir vont être chouettes.
Il y avait un jeu, je sais pas si c'est de la SF, je me souviens plus du jeu, qui me faisait de l'œil. Ah mince, j'ai oublié le jeu. Bon.
Ouais.
C'est pas grave. Je pense qu'on a fait le tour d'à peu près ce dont on
voulait
parler.
Ouais, j'ai balancé mes hot takes.
J'espère que t'as apprécié cette petite discussion.
Ouais, non, c'est chouette de discuter de SF comme ça et de un peu voir les différents aspects du genre.
Si tu veux, on pourra se refaire une petite séance comme ça.
Ouais, carrément.
Et puis, si on te redemande, je te le dirai pas parce que je garde l'ego pour moi. Et j'espère que vous avez apprécié cette petite séance de pop culture et je vous souhaite une excellente journée ou soirée. C'était Hermione. Au revoir.